Bonjour à tous. Dans le cadre d'un séjour sur le canal du Midi organisé par les Francas du Gard, nous sommes allés à la rencontre de l'office du tourisme de la Domitienne ainsi que de Katie et Sand, batelier sur la péniche Le Langon, avec qui nous avons navigué pendant une semaine.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à l'office de tourisme du Malplace pour interviewer Ingrid, guide conférencière. Bonjour Ingrid.
Bonjour.
Pouvez-vous nous expliquer votre métier ?
Alors, je fais des recherches dans les archives Siena sur un site ou sur quelque chose que je dois faire visiter. Et puis ensuite, s'il y a beaucoup de choses à dire, je cherche un thème, un fil conducteur. Et puis après, je crée une visite. Mais plus j'en sais, plus c'est dans ma tête. Et après, plus j'ai de choses à raconter, je suis à l'aise pour faire les visites que je fais découvrir donc, aux visiteurs.
Pourquoi ça s'appelle le canal du Midi ?
Alors, à l'origine, le canal s'appelait le canal royal du Languedoc, puisque c'était l'époque de Louis XIV. On était donc sous une royauté et du Languedoc, parce qu'il traversait la région du Languedoc-Roussillon. Et après la Révolution, les révolutionnaires ont aboli tout ce qui avait attrait ou qui faisait référence à la royauté. Et on l'a rebaptisé le canal du Midi, parce qu'on trouvait que c'était plus démocratique, et puisque le Midi désigne le sud de la France.
Depuis quand est créé le canal du Midi et pourquoi ?
Alors le canal du Midi a été construit, creusé de 1666 à 1681. Et l'idée de le construire remonte à l'Antiquité. L'idée c'était d'aller de l'océan Atlantique à la mer Méditerranée sans contourner la péninsule ibérique, c'est-à-dire sans contourner l'Espagne et le Portugal. Puisqu'au lieu de faire 2500 km en bateau, ça ne représentait plus que 500 km, c'était beaucoup plus court. Moins dangereux parce qu'on évitait les tempêtes de la mer, les attaques de pirates. Et c'était moins cher puisqu'on évitait les taxes que les bateaux devaient payer autrefois pour traverser le détroit de Gibraltar. Donc l'idée, elle remonte à l'Antiquité, mais il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que Paul Riquet trouve une solution afin de pouvoir construire et creuser ce canal.
Comment le canal a été creusé ?
Il a été creusé tout simplement à la pelle et à la pioche. Donc il a fallu 12 000 hommes pour travailler sur ce canal. Souvent, les hommes donnaient les coups de pioche et creusaient avec les pelles. Et les femmes mettaient la terre dans des paniers qu'elles allaient déverser plus loin.
Où sont le début et la fin du canal du Midi ?
Alors, le canal du Midi s'étend entre Toulouse et Marseillan, à l'étang de Thau.
Quelle longueur fait le canal du Midi ?
Alors, il a une longueur de 241 km.
On est à côté du tunnel de Malpas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors le tunnel du Malpas, c'est le premier tunnel navigable au monde. Ça veut dire que c'est la première fois qu'on creusait dans une colline pour faire passer des bateaux. Il a été creusé par Pierre-Paul Riquet. Et donc il permet au canal du Midi de suivre son cours sur son trajet.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire du tunnel de Malpas ?
Alors quand Paul Riquet a fait le canal du Midi, il avait beaucoup d'ennemis et il voulait creuser un tunnel parce que c'était le trajet le plus court. Seulement, beaucoup de gens disaient que creuser dans cette colline, ça ne marcherait pas et qu'elle s'effondrerait. Mais comme il existait déjà une galerie souterraine qui permettait d'assécher l'étang de Montady depuis 400 ans, Paul Riquet était conforté dans son idée que ça marcherait. Donc les ouvriers ont commencé à creuser. Au bout de 3-4 jours, la première voûte s'est effondrée. Donc le roi a envoyé des émissaires pour faire arrêter les travaux, mais malgré cela, Paul Riquet a menti et a continué à faire creuser son tunnel avec deux équipes, une de nuit, une de jour, qui ne sont jamais arrêtées de creuser. Et au bout d'une semaine, ils avaient creusé une percée sommaire d'un bout à l'autre de la colline. Et face à cela, le ministre des finances qui s'appelait Colbert n'a pu que s'incliner et autoriser la percée du tunnel. Donc après, les travaux ont pris 6 mois pour pouvoir creuser le tunnel du Malpas.
Est-ce que vous avez une anecdote sur le canal du Midi ?
Alors chaque année, en hiver, le canal du Midi est fermé pendant 2 mois. C'est ce qu'on appelle le chômage. Pendant ces 2 mois-là, les agents qui s'occupent du canal du Midi, c'est VNF, Voie Navigable de France. Donc les agents de VNF vont s'occuper de réparer des portes d'écluses ou de nettoyer le canal. Donc chaque année, il y a des parties du canal qui sont vidées. Et donc, au fond du canal, on trouve plein de trésors. Et c'est le cas de le dire, puisque quand j'habitais à Carcassonne, chaque année, le canal était vidé. Donc, ce qu'on trouve le plus, c'est des vélos qui sont tombés des bateaux à cause des branches. Quand les bateaux passent sous des arbres où il y a beaucoup de branches, souvent, ça balaie tout ce qu'il y a au-dessus du bateau, les parasols et les vélos. Mais on a aussi trouvé pas mal de coffres-forts, puisque les voleurs aussi se débarrassent, après avoir fait des coffres-forts dans le canal, entre autres. Donc on peut trouver beaucoup de choses.
Quand le canal du Midi est vidé, est-ce qu'il se remplit avec la pluie ?
Le canal du Midi, il a une réserve d'eau dans la montagne noire. Toute l'eau du canal du Midi vient de la montagne noire, d'un lac artificiel qui s'appelle le lac de Saint-Ferréol. Donc depuis la montagne noire, l'eau s'écoule jusqu'au point le plus haut du canal. Et donc quand on vide une partie, on doit fermer les portes d'écluse en amont et en aval de cette partie-là. Et après, quand on veut remplir, il suffit d'ouvrir les ventelles des portes d'écluse pour que l'eau rentre, comme quand on fait passer des bateaux.
Il y a des endroits où il y a des portes, mais ils sont super loin.
Effectivement, là on est sur le bief le plus long du canal. Pendant 53 km, il n'y a pas d'écluse. Donc on peut vider des morceaux de ce bief, de cette partie, grâce à des bâtards d'eau. C'est-à-dire que le long du canal, il y a des encoches dans les berges, sur les côtés, dans lesquelles on peut glisser des poutres en bois, plusieurs poutres en bois, les unes sur les autres, et ça fait comme un barrage de bois.
Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
Alors, ce que j'aime bien, c'est que je suis curieuse, j'apprends beaucoup de choses sur tous les niveaux, que ce soit sur la nature ou sur la culture, et puis je peux partager toutes ces choses que j'apprends avec d'autres personnes, et être dans l'échange, et apprendre aussi de ces personnes de nouvelles choses.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la péniche Le Langon en compagnie des capitaines Katie et Sand qui vont répondre à nos questions. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Radio Sommière.
Alors dites-nous, depuis combien de temps êtes-vous sur la péniche ?
Moi ça fait 9 ans.
Une petite quinzaine d'années.
Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Eh bien justement sur la péniche.
Il a tout dit.
Que faisiez-vous avant ?
Moi j'ai fait 4 années dans la maçonnerie.
Alors ben, moi j'ai été sérigraphe, donc j'imprimais tout ce qui était poster, autocollant, fanion, t-shirt. Et puis après je suis passée dans la passion des bateaux.
Qu'est-ce qui vous a poussé à être capitaine d'une péniche ?
Moi c'est la passion des bateaux, j'ai habité très vite au bord du canal du Midi et en faisant mon jogging ou en me promenant. Un jour, quand j'étais plus petite, je me suis dit « c'est ça que je veux faire, je veux devenir capitaine ». Et puis j'ai commencé à étudier donc mon permis et puis j'ai passé mes diplômes et je me suis fait embaucher donc de suite sur le Langon.
Moi, ça fait 18 ans que je vis sur les bateaux, du coup c'est ma passion depuis toujours.
Êtes-vous sur la péniche toute l'année ?
Pas du tout, c'est notre instrument de travail.
Que faites-vous d'autre dans la vie ?
Ça nous occupe déjà à plein temps, on fait que ça.
L'hiver, on fait les chantiers, donc on rénove la péniche entièrement et on s'occupe aussi de la relation clientèle, tout ce qui est administration. Et puis après, la saison arrive vite parce qu'on navigue de mars à octobre.
Pourquoi aimez-vous votre métier ?
C'est une passion, ça m'est arrivé comme ça, parce que par l'amour des bateaux.
Ouais, c'est pareil, être sur l'eau, c'est génial.
Comment avez-vous appris à naviguer ?
Alors, le permis professionnel à passager, déjà il y a plusieurs types de permis. Mais celui que j'ai passé moi personnellement, il m'a fallu 2 ans pour apprendre à le passer auprès d'un capitaine, donc un professionnel, qui m'a appris à manœuvrer. Et puis ensuite, j'ai passé un examen écrit et 3 examinateurs sont venus à bord pour me faire faire des manœuvres. Mais il m'a fallu quand même 2 ans de ma vie pour en arriver là.
Et quels sont tous les postes sur une péniche ?
Sur la nôtre, typiquement, il y en a 4. Il y a un cuistot, un animateur, un capitaine, un matelot. Mais il peut y en avoir bien plus selon le métrage du bateau. Il peut y avoir des mousses, il peut y avoir plusieurs matelots, plusieurs cuisiniers et un timonier. Donc un timonier, c'est une personne qui a les capacités de barrer pour le capitaine.
Quels sont les avantages, inconvénients sur la péniche ?
Alors les inconvénients, c'est compliqué à dire parce que quand on aime ça, on aime ça. Mais c'est vrai que ça peut être un métier dur pour certaines personnes parce qu'on travaille toujours à l'extérieur. Avec la pluie comme avec les chaleurs, hein, et on pourrait dire que ça fait partie des points noirs. Mais non, quand on est passionné, on aime ça. Il n'y a pas vraiment de choses qui dérangent, si ce n'est les enfants qui nous entourent tout le temps. Je blague. Ben, les points positifs, c'est de rencontrer beaucoup de personnes. Ça, c'est hyper humain, c'est génial, hein, et c'est ce qu'on préfère. Et aussi, c'est qu'on rassemble beaucoup de métiers, beaucoup de corps de métiers. On fait de la plomberie, on fait de l'électricité, on fait de la soudure, de la peinture, on travaille la menuiserie. Et tout ça, ben, ça enrichit dans une vie.
Quel conseil vous donneriez pour de futurs bateliers ?
Ben, déjà, il faut aimer ça. Si on aime ça, il faut y aller, il ne faut pas s'arrêter, mais c'est pas qu'au batelier que je donne ce conseil-là, c'est dans la vie, quand on aime quelque chose, il faut aller le chercher.
Qu'avez-vous pensé de votre rencontre avec le groupe des Francas ?
Ben, les Francas, c'est génial, franchement, on les accueille avec plaisir, hein. Ils reviennent quand ils veulent, on leur garde la porte ouverte. En plus, ils ont des super ados à chaque fois, ça se passe hyper bien et on s'entend toujours très bien.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la péniche, comment elle est ? Parce qu'il y a différents types de péniches.
Alors, notre péniche, la péniche Langon, déjà, elle a été construite en 1928, donc elle n'est pas toute jeune, elle est faite d'acier. Et l'acier, tant que tu l'entretiens, ça perdure tout le temps. Ensuite, c'est une péniche qui a été reconstruite, réaménagée, on va dire, en 86, par la famille Ribaud. Qui ont fait en sorte de la reconstruire pour accueillir justement des scolaires et des colonies de vacances. Avant ça, c'était une péniche à marchandises qui a été conçue spécialement pour le canal du Midi. C'est une péniche qui a deux niveaux à hauteur d'homme, ce qui est assez particulier sur le canal du Midi. Elle a 38 couchages, 3 douches, 3 toilettes, une jolie cuisine aménagée pro, une grande salle avec tableau pour un petit projecteur, un joli pont soleil avec un mobilier malléable selon le nombre de passagers.
Est-ce que vous pourrez un peu expliquer en quoi consiste le métier du coup ?
Alors le métier de batelier, ça a plusieurs fonctions. Nous on fait particulièrement de transport de passagers. Par contre, il y a d'autres bateliers qui eux transportent de la marchandise. Il faut savoir qu'à l'époque, en 1666, les trains et les camions n'existaient pas. Donc on transportait toutes les marchandises avec les bateaux. Et on s'est un peu reconverti dans le passager.
Quel est votre endroit préféré sur le canal du Midi ?
Alors moi j'aime bien le Somail, c'est un petit hameau au bord du canal du Midi avec des bons restaurants et une librairie ancienne.
Je suis d'accord avec lui, d'autant plus que c'est un ancien fief de mariniers. Donc là, c'est un lieu où tous les mariniers se rejoignaient et mangeaient ensemble. Donc je vous laisse imaginer les soirées, c'était des grandes tablées, des belles rencontres. Hein, et c'était aussi leur petit moment où ils pouvaient s'échanger les nouvelles. Parce que c'était des personnes qui vivaient très peu à terre, qui étaient constamment sur leur bateau.
Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter ?
Oui, j'en ai une. Une fois, il y avait un bateau qui était derrière le Langon, donc on était en navigation, et il voulait nous dépasser, donc nous trémater. Et il était très pressé, il n'arrêtait pas de nous corner, de nous crier dessus, sauf qu'on était dans un étroit. Ça représente un petit chemin de vigne hein, pour les voitures. Et il voulait vraiment absolument me trémater, donc nous doubler. Et il a trouvé une feinte pour nous doubler. Il est arrivé au milieu du bateau, sauf qu'il s'est fait aspirer par le bateau. Il y a un effet d'aspiration qui se passe. Et l'avant de son bateau, le pic avant, qui était un pic avant de bateau de mer, a atterri pratiquement sur le pont. Il est resté accroché sur le Langon et jusqu'à ce que j'arrête complètement le bateau. Et son bateau a failli se retourner entièrement avec cette manœuvre.
Est-ce que, comme sur les bateaux, il y a des signes particuliers qu'on s'envoie entre péniches ?
Alors tout à fait, c'est des signaux sonores. Surtout.
Tu peux nous en faire quelques-uns ?
Alors, trois longs, ça veut dire je traverse. Par exemple, je traverse un port. Un long, un court, ça veut dire je vire de bord sur tribord, et etc. Il y en a plein, il y en a énormément.
Est-ce que vous avez la CB, un peu comme les routiers ont des radios pour communiquer entre eux?
Alors, la VHF n'est pas obligatoire sur le canal du Midi. On l'installera le jour où elle sera obligatoire.
Est-ce qu'il y a des expressions de marins de péniche, entre guillemets?
Alors, des expressions de marins d'eau douce, hein, on va dire, il faut être clair. Pour vous en dire une, on nous appelle les chis dans l'eau. Mais parce que quand tu tires la chasse, tu regarderas, tu sortiras sur le pont et tu regarderas, tu essayeras de le reconnaître. Hein.
Comment fonctionne une écluse?
Une écluse, ça fonctionne avec de l'eau. C'est un système d'ascenseur. Les portes sont en forme un peu triangulaire pour pas que la pression de l'eau laisse échapper les portes. Et en fait, pour monter par exemple un bassin, pour monter de niveau, il va falloir que l'éclusier ouvre des ventelles qui sont en bas des portes des écluses. Et c'est des petites trappes qui laissent passer l'eau. Et c'est lui qui va gérer donc ces ventelles qui sont accrochées à un petit moteur lié avec une crémaillère. Et pareil, c'est le même système pour descendre. Alors si j'avais un dessin, si je pouvais vous le dessiner, ça serait plus simple. Les premières écluses viendraient de Chine. À la base, c'était pas des sas, hein. Ils avaient juste créé qu'un seul côté de porte. Donc on n'était pas enfermé dans un sas, mais on était coincé juste par un côté de porte. Ensuite, il y a Léonard de Vinci qui s'est approprié de ces plans chinois et qui, lui, a amélioré donc les écluses et a créé ce sas. Je me souviens plus de la date, je ne saurais pas vous la donner. À Fonsérane, on les appelle les 9 écluses de Fonsérane, mais en fait, il n'y a que 6 bassins. Maintenant, il n'y a que 6 bassins parce que un siècle après la construction du canal du Midi, donc le canal a été construit en 1666. 80 ans après la construction, plusieurs architectes de France ont créé une dérive pour éviter de passer dans le fleuve de l'Orbe. Parce que malheureusement, ils ne pouvaient pas naviguer tout au long de l'année sur l'Orbe à cause des crues et à cause de la sécheresse. Donc ces architectes-là ont créé une dérivation avec un pont-canal et ce qui a fait que ça a supprimé 3 écluses. Donc maintenant, il n'y a plus que 6 bassins, mais on continue à les appeler les 9 écluses de Fonsérane.
Si on veut retrouver des informations sur la péniche, où est-ce qu'on peut les trouver ?
Alors, pour trouver nos informations, pour vivre le même séjour que les Francas ou d'autres, même pour vivre un bon moment en famille, en amis, vous allez sur www.canalmidi.fr et vous nous trouverez.
Merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt.
Et merci, au revoir.
Et merci à vous surtout. Ciao, ciao.
Parfait. Oui.